L'histoire méconnue du village d'Iroulégui, racontée par Dami Vigier.
Bonjour, chers auditeurs fidèles. Aujourd'hui, je vais vous parler des curés d'Iroulégui jusqu'à la période révolutionnaire. Jusqu'à la Révolution, il faut savoir que c'est le seigneur du village, c'est-à-dire le maître de la maison noble du village, qui possède en même temps l'église et qui a le droit de nommer à la cure, c'est-à-dire de désigner le curé. Bien sûr, cette nomination est envoyée à l'évêché, qui normalement la confirme. Le curé est donc nommé par le seigneur devant un notaire qui établit un acte. Cet acte est envoyé à l'évêché et l'évêché, en retour, envoie un acte d'insinuation, c'est-à-dire d'autorisation d'installer le curé. Comme nous l'avons dit, les curés étaient enterrés dans l'église devant le maître-autel. Nous avons, pour l'instant, la liste de 25 curés qui ont desservi Iroulégui depuis 1627 jusqu'à nos jours. Avant la Révolution, c'est une liste de 10 curés avec 6 vicaires. Et ces vicaires sont souvent des prébendiers. Il faut donc expliquer ce qu'est un prébendier. Un prébendier, c'est un prêtre qui dit des messes pour une prébende. Une prébende étant une maison dont les revenus agricoles servaient à faire dire des messes pour le repos de l'âme du propriétaire de la maison. Ce propriétaire avait donc institué une prébende. Et le prêtre qui disait ces messes était le prébendier. Bien sûr, il était rémunéré pour faire ça. À Iroulégui, il existait une prébende, la prébende de Labarry, qui a disparu il n'y a pas tellement longtemps. Elle se trouvait à l'emplacement du fronton actuel. Quelques curés d'Iroulégui notables. Le premier que nous ayons trouvé s'appelait Pedro d'Etcheberry. Venait-il de la maison noble? C'est tout à fait possible. Parce que souvent, les seigneurs des maisons nobles nommaient comme curé un de leurs frères cadets dont on ne savait pas trop quoi faire. Ce Pedro d'Etcheberry, on en trouve des traces entre 1627 et 1649. Il a deux vicaires. Autre curé d'Iroulégui, Guillaume d'Argaraï, dit Guilhem, dont on voit encore la dalle funéraire de 1683 dont nous avons parlé la dernière fois. Et justement, ce Guillaume d'Argaraï venait de la maison Labarry, de cette fameuse prébende. En 1683, Iroulégui a la particularité d'avoir deux curés nommés en même temps. L'évêque de Bayonne, Gaspard de Priélé, a décidé de nommer lui-même Jean d'Arroqui. Malheureusement, pendant ce temps, le seigneur d'Urdos nomme Martin de Harriette. Le seigneur d'Urdos agit au nom de Maria Joachima d'Echenic et Chorouette, qui est la maîtresse propriétairesse, d'ailleurs, c'est marqué sur l'acte, maîtresse propriétairesse de la maison noble Echeveria d'Iroulégui. Il faudra 2 ans pour persuader le curé Arroqui, nommé par l'évêque de Bayonne, de donner sa démission pour être remplacé par le curé Harriette, nommé par le seigneur. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on installait les curés, et on a justement l'acte d'installation du curé Harriette en 1685. Je vous décris la cérémonie. Après la lecture du titre envoyé par l'évêque, le sieur de Belsa, curé de Saint-Étienne de Baïgorry, présente Martin de Harriette à l'assistance. Quelquefois, au lieu du curé, c'est le notaire royal qui présente le curé en le prenant par sa main droite. Ensuite, le sieur de Belsa, curé de Saint-Étienne de Baïgorry, approche le curé Harriette près de la porte de l'église et lui fait toucher le verrou de la porte. On lui fait faire une aspersion d'eau bénite. On lui fait sonner les cloches. On lui fait visiter les fonts baptismaux. Ensuite, le nouveau curé baise le maître-autel et lit une oraison. Ici, dans notre église, évidemment, une oraison à Saint-Vincent. Puis, le nouveau curé, ouvre et referme la porte du tabernacle et, en principe, va faire sa petite visite à la sacristie. Et toutes ces formalités sont, je cite, « signe de la réelle, actuelle et corporelle possession pacifique de la dite cure et des fruits et émoluments dépendants d'Issel, sans opposition de personne. » Voici comment en installer les nouveaux curés. Autre curé remarquable, une étoile filante. Pourquoi je l'appelle comme ça ? Il n'est resté que 2 mois. C'était Arnaud Durdos, encore la famille Durdos, qui a été nommé curé d'Iroulégui par son frère Guillaume Durdos, le deuxième de la lignée. C'était le nouveau maître de la maison noble Etcheverria et il nomme donc son frère curé dans son village d'Iroulégui. Sauf que Arnaud Durdos est déjà curé d'Irissari. Il approche quand même les 60 ans. Il s'installe à Iroulégui en février 1730 et fin mars 1730, il démissionne pour des raisons connues de lui seul. Autre curé remarquable d'Iroulégui, Jean Arispe. Jean Arispe était d'abord vicaire à Iroulégui et quand son curé décède en 1771, il assure l'intérim. Puis il est nommé curé d'Iroulégui en 1777. Bien sûr, il a été nommé par le seigneur Durdos, confirmé par l'évêque qui s'appelait Jules de la Ferronnay. On précise que à sa nomination, le curé Arispe a souscrit à la formule du pape Alexandre VII condamnant les 5 propositions de Cornelius Janssen, évêque d'Ypres. Qui était Cornelius Janssen? C'était un évêque des Pays-Bas, 1585-1638, donc fin 16e, début 17e, et c'est lui qui a été à l'origine du jansénisme condamné par l'Église catholique romaine en 1653. Donc, à cette époque-là, fin 18e, donc en 1777, tous les curés précisaient bien qu'ils condamnaient le jansénisme. Notre curé Arispe va subir la tourmente révolutionnaire et il choisira l'exil en Espagne plutôt que de prêter serment à la constitution civile du clergé qui a été décrétée par la Révolution. Il est vrai qu'en cas de refus de prêter serment, c'était ou l'exil ou la déportation ou carrément la guillotine. Voici notre dernier grand curé de avant et pendant la Révolution. Nous reparlerons un peu plus tard des autres curés. À bientôt!
L'histoire méconnue du village d'Iroulégui, racontée par Dami Vigier.